impressionné.
El ferrocarril más difícil del mundo.
Une autre vision de l'actualité à l'étranger.
Cette zone est bombardée par l'aviation israélienne.
Faites le tour de la planète avec Jean-Marc Four.
C'est ce qu'on appelle maintenant les réfugiés climatiques.
18h15, et pourtant elle tourne. France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h, passé de 4 minutes tout de suite. Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Allô Daniel, c'est Leïla du 74. C'est pour vous remercier pour votre émission que mes parents écoutent tous les soirs à la rediffusion. Donc, qui m'aide à m'endormir chaque nuit. Merci, ciao.
Hier lundi, je n'ai malheureusement entendu que la fin de l'émission. Et je le regrette beaucoup parce que ça avait l'air tout à fait passionnant. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Et à la fin de l'émission, là, j'ai entendu un homme qui disait que les inventions techniques de la civilisation avaient à voir avec la mort. Et il parlait de toutes nos inventions, nos avions, tous les engins que nous avons fabriqués, finalement, sont aussi porteurs de mort. Et puis alors, ce matin, à l'émission de Pascal Clark, j'entends qu'il allait y avoir Paul Virilio, alors j'écoute parce que c'est quelqu'un qui jusqu'à ce jour m'intéressait beaucoup. Donc en fait il a dit la même chose, mais avec des termes beaucoup plus savants. Il a cité Churchill disant à peu près nous sommes arrivés à l'époque ou au siècle ou au temps des conséquences, c'est-à-dire des conséquences des progrès techniques. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me dis voilà, quelqu'un qui a un cursus universitaire tout à fait extraordinaire, et puis finalement on ne pense pas mieux que les primitifs. Parce qu'il avait l'air primitif là, le gars à dire. Moi j'en étais resté, vous savez, à l'éducation de Tintin, c'est-à-dire quand les nègres, quand Tintin leur fait passer un enregistrement avec un gramophone, ils plongent la tête dans le haut-parleur et ils disent « lit sorcier, lit dedans ». Et puis non, pas du tout, ils sont pas du tout comme ça, ils sont très intelligents. Alors ça m'a amusé quoi. Je me suis dit au fond, nous sommes très très arrogants. Nous imaginons que nous avons beaucoup avancé dans la pensée, et en fait nous n'avons pas avancé beaucoup dans la pensée. Nous avons avancé beaucoup dans la technique par rapport aux primitifs, mais pas dans la pensée. Étonnant, non ?
AMG du Havre, bonjour. Les premiers qui ont osé. C'est le titre de l'audiovisuel relatant l'occupation de l'usine Breguet en 1936 au Havre, qui sera projeté par Jacques Quilomonier d'Attaque au Café Repère du Havre, mercredi 21 à 18h30. Ce Café Repère se déroule comme toujours au Kangourou, 163 rue Victor Hugo. Ce film sera suivi d'un débat sur l'époque de 1936, mais élargi à la situation politique actuelle. Voilà, merci Daniel, bon courage, allez, au revoir.
Moi, je voudrais réagir. J'ai entendu dire que France Inter se débarrasserait de Stéphane Guillon. Donc, je voulais donner mon avis en disant que je suis mais outré. Monsieur Philippe Val, qui a pourtant participé à un journal satirique, se permet de maintenant avoir des vapeurs. Et vraiment, je n'en reviens pas. Je trouve que maintenant, la liberté d'expression s'en va. Que le pouvoir a quand même bien mis ses petits soldats un peu partout. Et c'est lamentable. Vraiment, c'est lamentable. Je suis vraiment navrée. En tout cas, moi, Stéphane Guillon, je le soutiens. Je l'aime beaucoup. Il me fait rire. Et je sais qu'il est dans la provoque tout le temps. Et j'adore ça.
Oui, bonjour. C'est Norbert de Lorraine. J'avais une question dans le cadre du problème du nuage volcanique. Là, en ce moment, je vous disais, effectivement, il y a beaucoup de pertes au niveau des voyagistes. Mais je me dis, il doit y avoir pas mal de bénéfices quand même au niveau des opérateurs téléphoniques, parce que moi-même, j'ai ma fille qui est coincée dans un petit coin du Moyen-Orient, en Israël, et quand je vois la consommation de téléphone que j'ai dû faire pour arriver à résoudre son problème, je crois que là, il faut peut-être s'intéresser, puis étudier un petit peu l'évolution des courbes de bénéfices des opérateurs téléphoniques durant ces jours-ci. Voilà, allez, au revoir et bon courage. C'est vraiment une émission intéressante que je suis régulièrement. Au revoir.
Les travailleurs sociaux du centre de jour de la RSL de Limoges sont en grève depuis jeudi dernier. Leur mission d'accueil et d'orientation des populations sans abri ne peuvent plus être assurées. Depuis des mois, le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé. Actuellement, des personnes isolées, des familles avec enfants en bas âge, des personnes gravement malades, des femmes enceintes dorment dehors. Depuis des mois, les travailleurs sociaux du centre de jour doivent dire à des personnes en situation de très grande précarité qu'ils ne peuvent rien ou pas grand-chose pour eux. Depuis des mois, la masse de travail ne cesse d'augmenter à moyen constant. Depuis des mois, nous attendons que l'État prenne position, honore ses engagements et respecte ses obligations légales en matière d'hébergement des plus démunis. Depuis des mois, les autorités sont alertées de cette situation sans réponse satisfaisante. Dans l'attente d'une réunion, le jeudi 22 avril à 14h à la DDCSPP, ex-DAS, qui doit fixer les modalités de financement pour l'année 2010, les travailleurs sociaux sont en grève. Dans l'incertitude des moyens qui nous seront alloués à l'issue de cette réunion, mais dans la certitude qu'ils seront insuffisants, nous considérons être dans l'incapacité de répondre aux demandes des usagers du service et d'assurer dans des conditions sereines notre métier de travailleur social. Nous ne pouvons plus accepter que les valeurs fondatrices du travail social et les droits des usagers soient ainsi bafoués. Nous comptons sur votre soutien lors de la manifestation que nous organisons le jeudi 22 avril à partir de 11h devant la préfecture à Limoges. Merci.
J'en ai entendu une bien bonne ce matin. Il y avait des gens qui étaient à Cherbourg et qui étaient obligés d'aller de la gare SNCF à la gare maritime, ce qui faisait une distance d'un kilomètre et demi, paraît-il. Et ils se considéraient, puisqu'ils le faisaient à pied faute de bus, comme des réfugiés. Quand on pense qu'il y a des gens en Afrique qui sont obligés de faire des dizaines de kilomètres par jour à pied pour aller à l'école ou aller chercher de l'eau, vraiment, les gens ont perdu le sens commun et le sens des réalités. La seule consolation, c'est que ça leur fait les pieds. Aussi, un petit détail, je suis vraiment désolé de ne plus entendre parler du Colspé qui a disparu mystérieusement de votre émission.
Salut Daniel et ton politburo, là, c'est Christophe de Pontoise. Bah, c'était juste pour te dire un petit message, là, j'ai envie d'écouter le répondeur. Il y a quand même un sacré paquet de tordus qui écoutent ton émission quand même. Hein. Parce qu'avec l'histoire des avions qui ne peuvent pas décoller, alors il y en a un qui dit que c'est bien parce qu'il n'y aura pas d'avions militaires qui vont survoler notre pays. L'autre qui dit que ça va être bien parce qu'il n'y aura pas de raccompagnement à la frontière. Et un autre qui dit que ça sera bien parce que les bourgeois, les riches pourront pas prendre l'avion, les capitalistes, j'en passe et des meilleurs. Eh ben les longs, il y en a qui ont vraiment, je sais pas quoi dire, mais c'est, ça devient grave quand même. Donc ça à penser, il n'y a pas autre chose à penser que des avantages de ça, de pas avoir d'avion. Il n'y a pas autre chose à penser, non, que toutes ces conneries là. Bon, allez, à plus.
Oui, ben vous vous amusez beaucoup, je sens. Hein. En France, et ben nous ici à Tokyo, on rigole pas du tout. Nous, les réfugiés français, c'est très pénible, c'est très désespérant. Il y a des Français qui sont en train de vendre sur les trottoirs les souvenirs qu'ils ont achetés, les kimonos, les sabres de samouraï, tout et les appareils photo, tout ce qu'ils ont pu acheter ici, ben ils sont obligés de leur vendre le trottoir. Vous avez des Français qui sont en train de brûler leurs passeports ou de les déchirer pour passer pour des sans-papiers, pour se faire passer pour des sans-papiers, dans l'espoir que le Éric Besson japonais les reconduise à la frontière et les renvoie chez eux. Mais ça marche pas du tout. C'est une situation extrêmement désespérée. Quant à notre idée avec Guy Gentil de faire un petit groupe de musique à la guitare et au chant pour chanter dans le métro, les autres Français y pensent aussi et c'est terrible. Alors vous les voyez par grappe, par groupe, qui errent comme ça dans les rues de Tokyo, c'est terrible à voir. De temps en temps, il y en a un qui se met à chanter « Revoir Paris » ou et qui fredonne une chanson de Piaf et tout le monde tombe en larmes. C'est vraiment des situations terribles. Mais enfin, quoi qu'il en soit, là-bas, si j'y suis, continue et continuera la preuve aujourd'hui avec cette archive que nous avons retrouvée d'un entretien avec Paul Carpita. Le cinéaste Paul Carpita, c'était en 1990, figurez-vous, il y a 20 ans. Et oui, là-bas, si j'y suis, était déjà là, et Paul Carpita était encore là. Voilà, un grand moment, non pas de, forcément de radio, mais en tout cas de cinéma, et d'un homme remarquable. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Je retourne avec les réfugiés.
Moi, je dis vivement à la retraite à 65 ans. Ouais, je m'explique. Si le gouvernement vote en septembre la loi fixant la retraite à 62 ans, l'UMP perdra entre 300 000 et 400 000 voix en 2012 aux élections présidentielles. Bon, s'il passe la retraite à 63 ans, il perdra entre 400 000 et 600 000 voix, toujours en 2012. Et s'il la passe à 65 ans, eh bien là, il perdra entre 600 000 et 1 million de voix. Et là, bingo, la planète sarkozysienne va exploser, l'alternance sera là, et le nouveau gouvernement repassera la retraite à 60 ans. Enfin, je l'espère. Pas mal mon scénario, hein.
Je tire ce petit texte que j'aimerais bien lire, Des yeux ouverts de Marguerite Yourcenar, des entretiens avec Mathieu Gallet. Une famille royale comme la Maison de France, qui pour les royalistes a signifié la France, est toute pétrie de sang étranger. Louis XIV était à moitié espagnol, un quart italien. Louis XVI est à moitié allemand, un quart polonais. Les ascendances de Georges Sand sont à la fois populaires et royales. Il y a un peu de prince chez le plus petit paysan, du temps qu'il y avait encore des paysans, et beaucoup de rustres chez les princes.
Bonjour, je vous présente Liliane, une camarade. Mais je vous connais, vous êtes le frère de Jean Fournier. Je vous ai vu ensemble une fois au syndicat. Ah, je vous laisse.
Oh non.
Oh, vous savez, vous ne dérangez pas, hein.
Oh oui. À tout à l'heure, j'arrive.
Ouais, j'étais pas sûr que vous viendriez.
J'avais promis.
Oui, mais des fois, on dit ça et après... C'est à quelle heure, votre cantine?
Midi et demi.
Je vous accompagne.
Volontiers.
À cause de vous, j'ai failli faire des dégâts ce matin sur le port.
Comment ça?
Encore un peu, je balançais une palanquée à la mer. Je pensais à vous. Vous en doutez?
Alors, demain, 9h qui débelge.
Je sais pas. Peut-être, oui.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la messe où j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Je veux faire des films d'amour, je veux que quelque chose se sorte de l'écran par des gens de chair, des gens s'identifient à ces gens, et que ça sorte et que ça aille au cœur des spectateurs.
Marseille 1955, un petit instituteur de Marseille a rendez-vous sur les quais. Il n'a rien de particulier, c'est le Marseillais, bonnard et jovial, sauf qu'il a une caméra au point. En 55, l'expression « caméra au point » n'existe pas encore. Godard, Truffaut et compagnie sont encore inconnus au bataillon. Et aujourd'hui, 35 ans après, les historiens du cinéma sont obligés de revoir leurs copies. La nouvelle vague est venue de Marseille. Le petit instit de Marseille, avec sa caméra, s'appelle Paul Carpita. Son film s'appelle « Rendez-vous des quais ». En 55, avec des copains, des amateurs, il tourne cette histoire de la lutte des dockers contre la guerre d'Indochine. En pleine projection, le film est interdit par la censure. C'est sans appel. Et là, c'est la trappe, occultée, disparue, personne n'en parle, personne ne sait. Et puis, en février dernier, février 90, voilà que le film ressort. C'est le deuxième rendez-vous des quais. Miracle, le film a gardé toute sa fraîcheur. Et deuxième miracle, l'auteur aussi, Paul Carpita.
Paul, vous tournez un film il y a 35 ans. Qui s'appelle ouais,
37
Rendez-vous.
Ans, je l'ai 37... tourné en 53, je l'ai tourné, ce film.
Alors, le film est interdit.
J'étais très très malheureux, non seulement parce qu'on a saisi mon film, c'est mon premier film, imaginez un premier film d'un réalisateur maintenant, la police fait éruption dans la salle et prend les bobines au milieu des spectateurs, c'est quelque chose d'humiliant, d'horrible.
Ce film retrace ce dont ne fait pas état le synopsis, une grève déclenchée par les dockers de Marseille sous un prétexte syndical pour mener une action contre la guerre d'Indochine. Il contient des scènes de résistance violente à la force publique. Sa projection est de nature à présenter une menace pour l'ordre public. Voilà ce qui s'est passé, voilà le texte exact qui a censuré le film de Paul Carpita en 1955. Et puis, Rendez-vous sur les quais est revenu sur l'écran. On a appelé ça le deuxième rendez-vous des quais. Et le père Carpita, Paul Carpita, le petit instit de Marseille, il est là, en face de moi, comme si rien s'était passé, ou presque.
Donc il y a 37 ans, vous tournez un film qui s'appelle Rendez-vous des quais, et dans le film, il y a des allusions à la guerre d'Indochine.
Ah oui, non, c'est pas des allusions, c'est en plein dedans.
Ouais.
C'est le seul film français qui s'est élevé contre la guerre d'Indochine. Et pendant l'événement, pendant la guerre d'Indochine. C'est ça qui est important. Après coup, on peut toujours faire des films. Mais pendant que l'événement se produit, là, c'est très difficile de faire. Parce qu'on a, la police, on a le film n'est pas autorisé, etc. Il a fallu tout tourner clandestinement sur le port. Je dis qu'il est en plein dedans parce qu'il y a une histoire d'amour, c'est un long métrage, bien sûr, c'est une histoire d'amour, mais ça se passe dans ce contexte de lutte des dockers contre la guerre d'Indochine. Et tout le film tourne autour de ça. On est sur le port, on voit arriver les blessés, on voit embarquer les tanks, les canons, etc. Donc c'est vraiment un film contre la guerre d'Indochine.
Et le film a été censuré pour atteinte à la sûreté de l'État?
Oui, pour plusieurs raisons. Nous avons la lettre officielle là du ministère qui nous dit ce film, sous un prétexte syndical, montre une action contre la guerre d'Indochine. Donc, c'est parce qu'il est contre la guerre d'Indochine. Deuxièmement, il montre ou il exalte une résistance violente à la force publique. Et dans ces conditions, le film est de nature à troubler l'ordre public.
Et avec ce simple attendu, tant que le film passe au placard, va au fond de la trappe et on n'en parle plus.
Et on n'en parle plus et on me dit, on me convoque moi. On va me chercher, parce que lorsqu'il y a eu cette séance-là, je n'étais pas présent dans la salle, je devais venir à la fin du spectacle pour remercier. C'était une séance spéciale faite pour les dockers, leur famille, tout ça, tout ce qui nous avait aidé pour faire le film. Et je devais arriver en sortant de l'école, étant ainsi, je devais aller les remercier. On faisait comme une petite fête avec quelques gâteaux, tout ça, pour fêter l'événement, parce que c'était quand même une gageure de mener à son terme un tel long métrage en 35, en 1953, sans aucun moyen. Aucun moyen. Une petite caméra muette, tout pour synchroniser au studio Pagnol.
Ce film, c'était quand même une haute subversion, parce que vous me racontez que vous faisiez semblant de faire un film sur la brandade de morue. C'est ça.
Ah oui, exactement. Et après, on a tout pour synchroniser au studio Pagnol, avec des spécialistes de Paris qui étaient venus nous aider, des spécialistes du doublage et des films américains, etc. Et on a dit notre texte à nous.
Ouais, ouais.
C'est vraiment extraordinaire. Mais pas que pour la brandade de morue. Alors une fois c'était la brandade de morue. Une autre fois notre héros escalade la passerelle pour monter à bord d'un pétrolier, pour inciter les métallos de bord à rentrer dans la grève à leur tour. Et il leur dit, il monte en haut de la passerelle, et puis il est harangue, et il leur dit: mais il faut pas nous laisser seuls, nous les dockers, parce que cette guerre, il faut... Bon, alors vous voyez, il y a déjà les marins qui ont mis sac à terre, il y a toutes les entreprises autour qui débrayent tout ça. Vous ne devez pas rester à l'écart de ça. Venez dans notre grève. Voilà ce qu'il leur dit.
Camarades métallos, les dockers ont débrayé. L'action déclenchée au moment de l'arrivée du Pasteur a gagné maintenant tout le port. Au nom du comité de grève qui vient d'être constitué, je vous appelle à soutenir notre mouvement. Vous savez pourquoi nous agissons. Et vous avez déjà montré que vous étiez d'accord avec nous. Eh bien, il ne faut pas nous laisser seuls. Ce ne sont plus seulement les dockers qui manifestent leur résolution. Les marins du Pasteur ont mis sac à terre. La maîtrise s'est prononcée avec nous. Aucun travailleur du port ne doit rester à l'écart de cette grande action pour la paix et les intérêts de tous.
En réalité, il leur dit pas du tout ça. Pas du tout.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Parce qu'on avait demandé l'autorisation de tourner à bord de ce pétrolier un film sur le sauvetage des gens en mer. Et on comptait avoir l'autorisation d'aller sur le bateau avec un papier. Mais les gars étaient tellement enthousiastes qu'un tel film allait se faire sur leur pétrolier, sur le sauvetage des gens en mer, qu'ils ont voulu venir. Et on s'est vu à rappliquer les deux patrons de la compagnie. Et qui étaient là. Alors on était un peu désarçonnés. Nous, on a dit qu'est-ce qu'on fait. Alors finalement, on a décidé que le comédien allait jouer le jeu de sauvetage en mer. Et il a dit, je sais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais dire? Il dit n'importe quoi, merde. Tu vas dire qu'il faut sauver les gens, merde, et merde toi. Et puis après, il est arrivé, il a fait une harangue. Et quand les gens, ils lèvent le doigt comme volontaire pour aller sauver les gens en mer. Mais en réalité, ils votent la grève. Voilà.
Alors, bon, ça c'est subversif quand même.
Mais oui, mais c'est subversif, mais on était subversif. Mais moi je trouve que c'est bien d'être subversif, non?
C'était avec votre paye d'instit que vous aviez
financé. Oui, et on était un groupe de réalisation. Nous étions mis en tête de créer des contractualités. Alors on allait un peu tourner dans les quartiers, partout, les manifs et tout. On était des militants enthousiastes, etc. Et on avait notamment tourné une actualité contre la guerre d'Indochine, en étant en plein dans les bagarres de la guerre d'Indochine. Et notre but, c'était d'en faire une petite bande d'actualité qu'on projetait dans les quartiers après. Mais en voyant les images, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un long métrage? Et j'ai inventé une petite fiction, mais j'ai une manière tout à fait personnelle d'écrire, une écriture cinématographique qui m'est propre. Et c'est de mêler inextricablement fiction et réalité. C'est ce qui donne ce cachet d'authenticité à ce film. Les gens disent il a 37 ans, mais il n'a pas une ride, parce que c'est tellement lié à la vie et à la vie des gens qu'on y croit forcément.
On boit la santé de Daniel.
À Daniel.
Et que vous ayez un peu plus de travail sur le port.
Que vous ayez un peu plus de travail sur le port. Ce n'était pas le travail qui manquait au lendemain de la libération. Je me souviens, ça grouillait jusqu'au Cap Jeannet. Les quais étaient encore démantelés, pourtant les palanquiers tournoyaient. Pas de se casser la tête. Être embauché chaque matin, c'était normal. Il n'y avait pas assez de tracteurs, de grues, de bras pour tout ce boulot. C'était dur, bien sûr. Mais nous espérions aller vers quelque chose de grand. Ça n'a duré que 2 ans, malgré nous. Il s'est fait plus rare. On vient à l'embauche sans être sûr. De plus en plus de mauvaise humeur. Il faut attendre et revenir demain. Parfois, nous travaillons 4 jours dans la semaine. Nous oublions un peu nos peines. La semaine suivante, c'est le chômage. Et les soucis reviennent. On nous appelle les travailleurs intermittents. Des chômeurs intermittents. Un peu plus de travail sur le port. Elle a dit ça à Madame Jeanne, comme on dit. Bonjour.
Ça se passe à Marseille. Et à Marseille, on est des fois très mal placé pour savoir ce qui se passe, mais des fois on est très très bien placé. Et pendant la guerre d'Indochine, on était particulièrement placé du côté des dockers pour une raison très simple, c'est que d'une part on embarquait des chars, des tanks vers l'Indochine, et d'autre part, on débarquait des cercueils. C'est les dockers qui faisaient ça. Et les dockers, dans ces époques, début des années 50, ont fait une grève contre la guerre d'Indochine. Et il y avait là un petit bonhomme, un petit instit, avec une caméra qui a osé filmer ça. Il s'appelle Paul Carpita, c'est avec lui qu'on se balade aujourd'hui. Et son film, à l'époque, en 55, a été interdit. Il a été complètement occulté pendant 35 ans et il est ressorti. Paul nous a raconté comment les acteurs de ce film se sont retrouvés. Ces acteurs, c'était tous des amateurs, des militants, des amis, des copains de Paul Carpita. Et ils se sont retrouvés en février dernier. La plupart s'étaient pas vus depuis c'était l'époque du tournage. Carpita lui-même avait enterré un peu sa peine et son humiliation, parce qu'il s'agit bien d'une humiliation qui lui a été faite à lui, mais à tout le cinéma français. Et ils se sont tous retrouvés pour la projection de ce film. Alors évidemment, l'héroïne qui avait 16 ans dans le film, elle est devenue grand-mère. Je me demande si quelqu'un a filmé ça, sans doute pas Carpita lui-même.
Carpita, vous êtes d'origine italienne?
Non, corse. Mais si on remonte plus loin, ça revient au même. Hein. C'est italien aussi, parce que mes arrière-grands-pères étaient italiens, d'origine de Gênes. Et puis après, les deux branches se sont séparées, une est allée en Corse, et voilà. Alors donc, il y a des Carpita italiens, mais il y a des Carpita corses. Moi, je suis de la branche corse.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vrais Marseillais, ou qui c'est les vrais Marseillais?
Oui, mais c'est ça. Ça, il faut y revenir à ça, parce que même en allant plus loin, même les Français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a plus de sens. Il y a tellement un brassage de population, et surtout en ce qui concerne Marseille, c'est une ville comme un grand port. Mais nous, tous les grands ports sont un peu cosmopolites, c'est normal. Mais Marseille est particulier parce que notre pays est un pays colonial qui avait des colonies importantes. Alors ça, c'est là que tout le monde débarquait en transit ou quoi, et ça a fait des souches, etc. Alors, lorsqu'on me parle des étrangers avec un certain mépris, moi j'en souffre parce que moi-même, je suis fils d'étranger, si on remonte bien à deux, trois générations, hein. Ben, vous voyez, les gens, ils viennent et puis après, ça se mélange, ça fait des enfants, ça fait des amis, ça fait... Et ça apporte quand même une certaine richesse à notre ville et à notre pays, parce que c'est bien d'avoir ce mélange de toutes les cultures et tout.
Hein. Mais aujourd'hui, l'intégration, entre guillemets, maghrébine, quand même, pose des problèmes à votre ville.
Oui, oui, c'est assez particulier quand même, je crois, parce qu'on a connu ça, moi, tout petit, j'ai connu ça à Marseille avec les Italiens. On disait les babis, etc. On s'en moquait d'eux.
C'était quand ça, Paul?
Oh, ben je sais pas, 1932 ou 31, quoi. Ils fuyaient peut-être la misère chez eux. Ou je
fascisme,
sais pas quoi,
peut-être.
Ou le fascisme aussi. Puis il y a eu des Espagnols. Bon, ben enfin, prenons le cas des Italiens. On disait ça, on s'en moquait d'eux. Hein, mais ça n'avait pas pris ce ton aigu qu'il y a avec les Maghrébins. Je crois qu'avec les Maghrébins, c'est parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Ça, qu'on le veuille ou non, ça marque les gens au fond.
Alors, on est prêt pour cet après-midi? Cette histoire de cercueil et de grève, là, ça ne tient pas debout. S'il y a du chômage, c'est bien à nous qu'il faut s'en prendre. On arrête le travail pour un oui ou pour un non. Tiens, par exemple, pas plus tard que ce matin, au Mont le C, on a arrêté aux villes d'Alger après l'accident de Saïd. C'est malheureux pour le copain, mais on n'avait pas arrêté.
Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu tiens le langage des pires patrons? Si on n'avait pas lutté chaque fois, on nous traiterait maintenant pire que les galériens. Tu as oublié de dire qu'avant-guerre, le ville d'Alger, on l'aurait déchargé en 36 heures et non en 24 heures comme aujourd'hui. Et avec trois équipes encore.
J'ai jamais dit que les patrons étaient des anges, mais enfin, on exagère un peu, quoi.
C'est les patrons qui exagèrent, en voulant nous faire faire à deux le travail de quatre.
Ben alors, on se bagarre quand on s'a...
Mais évidemment. Dans ce moment, on veut tout nous expliquer par la guerre d'Indochine. Bien sûr que ça fait mal au cœur tous ces cercueils que le pasteur va ramener. Mais tout le monde veut la fin de cette guerre.
Qui nous coûte 2 milliards par jour. Une paille. Et tu t'étonnes, Jo, que les dockers s'intéressent particulièrement à cette affaire? Tiens, si le père de Fournier pouvait répondre, il te dirait qu'avant-guerre aux messageries, ça n'arrêtait pas avec tout l'Orient. Le boulot ne manque pas. C'est pas vrai. Qu'on arrête la guerre d'Indochine, et ce sera déjà ça.
Tu crois réellement qu'on peut y faire quelque chose?
En admettant que tu aies raison. Tu t'imagines que c'est avec des débrayages et des pétitions par-ci par-là qu'on va tout changer?
Remarque que si on y est tous cet après-midi, ça peut donner un résultat.
Ah, tu crois ça, toi?
Tu vois, Jo, je sais pas où tu pêches tes arguments. C'est très dangereux. Tu fais le jeu des patrons.
Vous dites, on était un groupe de militants. Vous étiez quel type de militants? Militants de quoi?
On était de gauche, bien sûr, mais on était dans les mouvances de la CGT. Oui. J'ouvre une petite parenthèse, si vous permettez. Mon père était docker. Ma mère était poissonnière. Alors c'est dire que les bateaux, la mer, les humiliations, les fins de mois difficiles, etc. Mon père qui rentrait sans travail en rapportant sa gamelle. Tout ce que je vois dans le film, que j'ai mis dans le film, c'est mes petits yeux de gosse de 8 ans qui s'en souviennent. Voilà pourquoi. Alors dès que j'ai eu une caméra dans les mains, j'ai tourné ma caméra de ce côté, quoi. Voilà.
Est-ce que vous regrettez cette époque?
Non, parce que moi, personnellement, j'ai été très heureux, parce que je vous dis, j'avais une mère vraiment merveilleuse, un papa formidable et tout. Alors, donc j'ai vécu mal, j'ai vécu pauvre, c'est vrai. Et ils se sont saignés aux 80 pour me donner une instruction, tout ça. Et c'est quand même extraordinaire que j'ai pu être instituteur. Mon frère a été professeur agrégé, vous voyez. Alors, mais on le doit vraiment, c'est pas à l'aide de personne que mes parents qui se sont tellement dévoués et tout. Oui. Eh bien, je vous disais que nous avons eu toujours une ambiance très heureuse, tout ça, Marseille. Et moi, alors, j'ai vécu la vie de ces petits un peu Trundeler de Marseille.
Trundeler.
Oh, yeah, yeah. Ouais, on s'accrochait derrière les camions, on faisait pire que peindre, on taillait les cols, on passait notre journée sur le port et on allait faucher des trucs là, dans les emballages du port, on détachait des barques et puis on allait faire un tour au milieu de l'eau en ne sachant pas nager, on faisait des trucs. Oui. Alors moi, je vais vous dire, oui, moi d'abord, moi personnellement, et puis les autres aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et au cours de toutes les présentations que je fais du film, eh bien, un débat s'ensuit après, eh bien, immanquablement, il y a toujours quelqu'un qui soulève ce problème. Ah, de ce temps-là, il y avait une certaine chaleur humaine, il y avait une certaine fraternité, il y avait une solidarité qu'on retrouve peu maintenant. Tous nous disent ça. Et moi, je suis prêt de leur donner un peu raison, quoique je sais qu'il y a quand même encore des solidarités, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui se détruit, il me semble. Il y a une sorte d'individualisme forcené, enfin, chacun pour soi, voilà. Et on le voit bien, dès qu'il y a des mouvements quelconques et tout de suite, hop, ça prend un autre caractère. Et les gens, ils disent, oh, après tout, pensons à nous, les autres, on s'en fout.
Ça, c'est pas spécial à Marseille.
Et c'est pas spécial à Marseille, mais à Marseille, c'était pas du tout ça. C'était, je sais pas moi comment vous dire.
Dis, Roger, tu veux bien verser quelque chose pour ouais. L'aide d'Occaire en grève? Combien tu donnes?
Verse 200 francs.
J'ai une liste de souscription pour les dockers. Tu verses quelque chose?
Hé, hey, copain, nous devons les aider de toute nos forces, les dockers. Tu comprends? Si nous versons...
Dis donc, tu verses quelque chose pour les dockers?
Oui. Tiens, serre-toi. Prends l'argent dans ma poche.
Je prends 1000 francs.
Oh, doucement, hein? Pas d'histoire, on dit. Ton pas, il suis poché, ouais.
Allez, merci.
Salut.
Un truc, moi, qui m'a un peu surpris, en ce temps-là, là, j'étais allé à Paris. J'allais très rarement à Paris. Je connaissais pas Paris, moi. J'étais monté à Paris, vous pensez, c'était terrible. C'est comme si j'allais très loin, en Amérique. Eh bien, j'étais dans le métro. Et tous ces gens pressés, qui se parlent pas, qui s'écrasent. J'arrive dans un couloir de métro. Tout le monde court. Il y a un type qui est allongé par terre. Alors moi, je m'arrête. J'ai dit, mais monsieur, mais ça va pas, mais vous avez que... Oh, les autres, ils disent, vous voyez pas qu'il est vous voyez pas qu'il est... Et ben non, moi, j'étais là pour dire, mais vous voyez pas qu'il a peut-être il a besoin de nous, vous voyez. Et ben à Marseille, je vous assure que c'est ça. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a un malaise dans la rue, mais il y a un monde de fous autour, on emmène les chaises, on emmène des trucs, on lui dit, mais comment faire? Tout le monde est affolé, tout le monde est bouleversé. Et c'était comme ça. On vivait, moi, dans mon vieux quartier, là, autour de la mairie. Maintenant, ça a été détruit par les Allemands, mais il y avait les vieux quartiers, ben, il y avait plein de chaises dehors, les gens étaient dehors, ça faisait des groupes comme ça, et tout ça parlait avec les gosses, la marmaille et tout, il y avait une fraternité, et dès qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, il y avait tout le quartier qui s'y mettait, il y avait souvent des collectes pour Madame Chose dont le fils il a été opéré, vous voyez, et c'était comme ça, mais ça s'opère.
Ah, tu es là toi? Il y a un monde à cette fontaine. Si j'avais su, je t'aurais envoyé chercher de l'eau. Ça m'a tué. C'est tout qui va m'enlever, comme si on n'avait pas assez de peine comme ça. C'est une honte, une ville comme Marseille et ne pas avoir d'eau. Et tout qui augmente. Le billet de 1000 est parti et j'ai presque rien acheté.
Messieurs, messieurs, j'arrive!
Aïe, tu
m'estiches!
Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte nous partait l'Indochine. En se prenant pour toi dans le riz délavé, te pleure avec du sang et puis l'âme marine. Oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille.
Allez, on part, larguez les amarres.
Messieurs, dames, permettez à Toine de vous présenter notre beau Marseille. Le quai de Rive-Neuve, le marché aux poissons, la place aux huiles, les yachts défauchés, là. Admirez-moi ce paysage, messieurs, dames. Respirez-moi cet air marin. Et là-haut, la bonne mer qui a été bâtie il y a longtemps.
Au Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à tonneau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins, que l'absinthe déserte. Au Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne, et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Au Marseille, la vie a porté sur ton dos tout ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge, accrochée à tes mots, les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques. Au Marseille, on dirait que flottent des drapeaux qu'une toile impudique a fauchés dans des voiles, et ces bateaux perdus qui croisent sous ta peau se souviennent de toi dans la gorge des squales. Au Marseille, on dirait que les saisons se noient dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire à compter les bateaux qui lui parlent de toi jusqu'au galion perdu qui se croit nucléaire. Au Marseille, on dirait que le peuple et le roi ne savaient plus quoi dire et ne savaient que faire quand bouillait la colère, et 89 fois ils ont mis sur ton nom une chanson misère.
Gare! Au Jard! Le bruit!
Au Jard, on t'attend pour le pastis.
Tu me la sens bien faire de moule, ouais. Regarde comme elles sont belles. Justement, j'ai quelque chose à te dire. Approche-les.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Assieds-toi. Mon vieux Toine, on a besoin de ton bateau. Une nuit.
Mon bateau? Une nuit? Et pourquoi faire?
Le pasteur va rentrer d'Indochine avec des cercueils, des blessés. Des copains ont décidé de faire une inscription sur la jetée. Et au Vietnam, il faut le répéter partout qu'on en a assez de cette guerre.
Ouais, ouais.
Alors, Fred et moi, on a pensé qu'avec ton bateau...
Ouais. Non, non, je marche pas. Non, je veux pas d'histoire. Et d'abord, il faut le connaître, mon bateau. Vous saurez pas le faire au marché.
Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à ton bateau? Il n'a qu'à venir avec nous.
Quoi? Non, non, non. Et vous,
au Marseille, on dirait que Shakespeare a l'accent, qu'il a quitté son Angleterre et ses manières, qu'il t'apporte une rose et Joliette dedans, avec des Roméo grimpant des canebières. Au Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin, on débarque toujours les amours passagères. Mais qu'importe ton ciel qui se prend pour l'Orient, qu'importe ton parler avec ces mots épiques, ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent, ces mots qui ne sortent pas de polytechnique. Oui, mais quel mot Marseille? Oui, mais quel mot Marseille? Oui, mais quel mot Marseille? Quand tu mets ta musique, oh, oh, oh.
Marcel.
Et alors,
rendez-vous des quais, quelques extraits des dialogues du film de Paul Carpita, avec qui on se promène aujourd'hui, Paul Carpita, le Marseillais de Marseille. Et il déborde de vie, Paul Carpita, il déborde d'envie aussi. Et quand on pense qu'il a été instite, on se dit qu'il y a des mômes qui ont vraiment eu du bol à Marseille. Je suis sûr qu'en nous entendant, qu'on soit de Marseille ou d'ailleurs, on se dit, mais alors moi j'ai envie de faire du cinéma. J'ai envie de faire comme Paul Carpita aujourd'hui, de prendre une caméra et d'aller filmer ce qui se passe autour de moi. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui?
En 53, bon, il y avait des grèves partout qui éclataient, il y avait une tension sociale extraordinaire à Marseille. Marseille était vraiment très tendue et tout, et puis il y avait ces manifestations contre la guerre d'Indochine qui étaient très durement réprimées, tout ça. Bon,
et bien, là, vous avez mis le doigt dessus, là, vous avez mis sur le sujet.
Le cinéma français était muet à cette époque, ouais, sur ça. Ouais, ouais, alors, il a fallu que des gens se jettent dans la mêlée à une caméra au point pour témoigner de leur époque. Bon, actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les
c'est queues. Quoi le sujet? C'est quoi le sujet?
Eh ben, mais il y en a mille, je sais pas, moi, c'est... Eh ben, c'est le fric. c'est que tout est basé sur le fric, c'est le gagnant, c'est le... Moi je suis pour les perdants, moi je suis du côté des perdants, je suis du côté des petits, parce que j'étais un petit et puis je vois qu'il y a des richesses extraordinaires et tout. Alors donc, si quelqu'un a une caméra maintenant qui puisse se jeter dans la vie et puis pousser un cri contre ça... Eh bien, ce serait formidable. Ce serait l'équivalent de ce que j'ai fait en 53. Alors, il y a les queues au restaurant du cœur. Bon, on dit, ah ben cette année, vous savez, il y en aura plus que l'année passée des restaurants du cœur. Et vous trouvez ça normal? Et vous le dites comme ça? Mais vous devriez hurler. Vous devriez... Écoutez, moi j'ai vu, je les ai filmés à la queue pour je ne sais pas quelle émission. Je les ai filmés, les gars. Eh bien, j'ai vu des gens de 35 ans, de 30, qui se cachaient, qui ne voulaient pas qu'on les reconnaisse parce qu'ils allaient prendre un peu de quoi. Mais c'est honteux, ça, dans notre pays. Enfin, on n'est pas chez les Zoulous, là. On est quand même un pays qui est riche, qui a des... Bon, ben, il faut bagarrer. Et voilà, voilà, un truc. Et Marseille... Marseille est en train de s'étouffer. On ferme les usines les unes après les autres, et le combat pour la Ciotat, etc. Enfin, ça s'étouffe sous nos yeux, là. Et alors, ça fait du chômage. Le chômage fait des gens aigris. Les gens aigris font du racisme, etc. Tout se développe, et voilà. Si quelqu'un vient avec une caméra et gratte tout ça, et bien, moi, je dirais, il faut faire ça.
Vous êtes prêt à l'aider?
Ah ouais, mais je les ai aidés, oh là là, demandez à Rossi. Ils ont fait un film, je les ai aidés, ils sont venus monter chez moi. Je leur ai prêté la salle de montage et tout.
Parce que là...
Non, dès que des jeunes font des trucs, ils peuvent venir chez Carpita, hein. Oui. Ça c'est sûr. Hein.
Il ne faut pas laisser passer ça, il faut protester. Il s'en fout pas mal, le patron, de notre protestation. Il le sait bien que ça ne nous fait pas plaisir lorsqu'il en flanque quelques-unes de nous à la porte.
C'est pas la première fois qu'on aura vu ça. Tu sais, c'est décidé, il n'y a plus rien à faire.
C'est pas à son bon cœur qu'on va faire appel. Mais si on sait se mettre toutes ensemble, c'est une autre paire de manches. Vous savez ce qu'il se dit, le patron? Il se dit, je vais essayer pour une. Si ça marche, ça marchera pour d'autres plus tard. Eh bien, on va lui montrer que ça ne passera pas comme une lettre à la poste.
Si tous les syndicats se mettaient d'accord une bonne fois, ça leur rabattrait leur caquet au patron. Mais c'est pas encore pour demain.
Tu vois, Michel, tu dis... Notre division, les syndicats. Mais il s'agit de Marcel. Les syndicats, c'est toi, c'est nous. Tu ne veux pas que demain il y ait de nouvelles licenciées, alors?
On perd son temps, le patron est encore là. On n'a qu'à faire une délégation.
Elle a raison, moi j'en suis.
Moi aussi.
Je vais avec vous et on envisage même un arrêt de travail.
Est-ce que vous êtes toujours avec la caméra au poing, dans le sens militant, dans le sens « je vais me battre », dans votre sens?
Oui, non, caméra au poing, c'est pas dans le sens militant « je vais me battre », c'est pas ça. Parce que là, alors, c'est le poing, tout seul, sans la caméra.
Le poing dans la gueule.
Oui. Le poing dans la gueule. Non, mais les caméras au poing, ça veut dire que c'est ça... un sens formidable pour moi. C'est Godard, c'est 7 ans après qu'il a fait,
ouais.
Hein, en se bousculant. Mais moi, j'avais, pour la force des choses, j'avais un peu bousculé les normes narratives en vigueur dans le cinéma, et j'avais fait caméra au poing, parce que ça m'était indispensable, moi, d'être je voulais aller au milieu des gens. Alors quand je dis caméra au poing, je veux dire que je veux toujours être au milieu des gens. Et alors, donc, même pour mon grand film, ce sera un film en cinémascope, par exemple. Je ne crois pas que ce sera un écran large, mais pas ce sera avec des grands comédiens en couleur, etc. Mais il sera caméra au poing. Pourquoi? Parce que je vais créer la réalité. Par exemple, il y a des travailleurs saisonniers qui venaient dans les rizières.
En Camargue.
Et alors, il y a des scènes très importantes qui se passent là avec les comédiens, tout ça, avec ces gens. Eh bien, je veux créer l'événement. Je veux les laisser vivre leur vie. Je leur dis, voilà, vous repiquez le riz, allez-y, faites ça. Je ne tourne pas, moi. Et quand la vie est là, alors là, je saisis mes trucs. C'est ça que j'appelle caméra au poing. Je veux que la réalité et la fiction soient imbriquées et que la réalité nourrisse cette fiction.
Mais cette fois-ci, tout est écrit, là. Je vois, vous avez amené le scénario.
Oh, oui, tout est écrit, mais ça n'empêche que sur place, je modifierai encore, certainement.
Oui.
Ça, je suis sûr. J'ai essayé de me l'imaginer parce que j'y suis allé en Camargue, je suis allé sur les lieux, tout ça, j'ai vu, donc il y aura guère de changements, mais le décor humain m'obligera peut-être à changer, parce que je vais utiliser des vrais gardiens qui se sont spontanément proposés pour tourner dans le film, et eux peut-être me donneront une manière de procéder pour tourner.
aujourd'hui, le film que vous allez faire, est-ce qu'on va avoir la même, à la fois une sorte de candeur et de subversion? Candeur, pour moi, c'est un compliment. Et de subversion, pour moi, c'est un très grand compliment. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes intacts?
Je veux dire, là, je fais une petite remarque, c'est que moi, j'ai jamais pu faire des films militants, comme on dit. Jamais pu. Même de l'autre côté, lorsque mon film était terminé, tout ça, ben, on me regardait un peu de travers. On disait, on parle pas de ci, on parle pas de ça, on n'a pas dit ci, on n'a pas dit là. Mais moi, je parlais des gens, je parlais de la vie. C'est ça qui m'intéressait. C'est pas de faire un truc avec un drapeau rouge, un défilé, tout ça. Moi, j'ai horreur. C'est pas ça que je veux. Lorsque je mets en scène des gens, des êtres humains, eh bien, ils ont des racines, forcément. Et après, eux, ils me prennent par la main et je suis leur vie et pas des trucs comme ça pour violenter les gens, leur dire nous, on a raison, vous êtes des cons, suivez-nous, on a la science infuse et tout ça. Moi, j'ai horreur de ça.
C'est comme cette grève des dockers. Vous n'avez pas assez d'embêtements comme ça, non? Avouez-le.
Vous savez, madame, les dockers, pas plus que les autres travailleurs, ne font grève pour leur plaisir.
Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Seulement, les ouvriers, ils sont jamais contents. Je sais.
Demandez un peu à mademoiselle Hélène qu'elle n'a pas des raisons de se plaindre.
Eh oui, avec ces taxes et ces impôts, on ne sait jamais où on va.
C'est les fonctionnaires qui sont payés à rien faire. C'est tous ces emplois inutiles.
Ah, vous voyez le truc. Vous, on vous dit c'est les fonctionnaires. Aux fonctionnaires, c'est les ouvriers. Aux ouvriers, c'est les paysans.
C'est vrai.
Tenez, mademoiselle Hélène, vous me mettrez 1 kilo de pommes de terre. Et vous ajouterez un yaourt, puis une orange. Mon mari est docker. Pour nous aussi, c'est difficile.
C'est drôle, écoutez, je veux dire encore un autre truc, ça paraît absurde ce que je vais vous dire. Je vois un film, par exemple, actuel. Hein? Alors, les poursuites en voiture, crissement de pneus, tout ça, on le voit dans tous les films. Bon, ça n'a pas d'intérêt, c'est la mode, c'est tout ça. Bon. Et puis, le gars auquel je pourrais m'attacher un peu, il est beau, il est bien, il est scène d'amour, bon, il rentre, bon, il va donner rendez-vous à un endroit, il va à la brasserie, ben. Moi, j'ai dit, putain, il a bu un truc comme ça, mais où il a pris les sous, quelle vie, où il vit, comment il... quel travail il a, vous voyez, j'ai besoin de savoir les gens, j'ai besoin de les connaître à fond, sinon... Je suis trompé, je dis c'est une marionnette aux mains du réalisateur.
Il n'y a pas la viande, quoi.
Il n'y a pas la viande. Alors, donc, moi, je ne veux pas ça. Donc, j'imagine, voyez, par exemple, dans mon film, mon prochain film, un des héros principaux, c'est ce qu'on appelle un marchand d'hommes. Il fait venir des travailleurs saisonniers d'Espagne pour les rizières. Il les exploite d'une manière éhontée, terrible, pire que des bêtes. Vous avez vu Riamer, tout ça, là, c'est le même truc. Eh bien, ce type-là, c'est un salaud. Pas du tout. Il est repoussant, attachant, veule, superbe. Il est tout pour moi. Et finalement, je l'aime. Voyez ? Pourtant, il est dégueulasse. Il fait des trucs terribles. Alors, on gratte un peu. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça ? Un type qui est méchant, un truc. Il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi il est méchant ? Et alors, j'essaie de savoir. Alors, je creuse. Mais j'ai dit, ah, d'accord. Il était fils d'immigrés italiens. Ah, il en a bavé. Ah, bon. Ah, maintenant, il se retourne contre les autres, inconsciemment. Ah, très bien. Allez. Et petit à petit, j'avance. C'est lui qui me guide. Moi, j'avais inventé un type pour faire mon histoire d'amour avec un jeune. Bon, et puis c'est lui qui a tout pris. Il m'a tiré. J'ai dit, c'est lui qui est important, c'est pas les autres. Les autres, c'est normal. C'est normal, il est exploité, il se révolte, bravo, c'est bien. Mais lui, c'est riche, c'est bourru. Vous voyez ? Alors voilà comment j'écris.
Alors, il y a des tas de projets qui se bousculent. Il y a celui-là qui va se tourner en Camargue, qui s'appelle comment, vous avez dit ?
Les Sables Mouvants. C'est un titre provisoire, mais parce que Les Sables Mouvants jouent un rôle important dans le film.
Mais il doit y avoir des tas de projets qui succèdent, parce que pendant ces 35 années de traversée des déserts, ça a dû s'accumuler, les idées.
Oui. Je voudrais faire, après ça, une comédie. Une comédie, pour changer complètement. Et dans Marseille sans soleil, il y a notre héros qui part en Algérie, le pauvre, qui ne revient plus, qui essaie de faire un film sur sa ville et que cette ville lui échappe et tout. Il écrit à ses camarades, et on lit la lettre dans le film, et il dit, lorsque je reviendrai de là-bas, on fera un film sur l'amitié entre tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, et tout ça. Il dit déjà ça. Et puis d'un coup, il dit, et puis, on fera un film marrant sur Marseille, et pourquoi pas, ouais. Alors, eh bien, je tiens parole. Je vais faire le film que dit ce réalisateur, c'est-à-dire la Camargue, là. Et puis, je ferai un film marrant sur Marseille.
C'est là que vous allez rejoindre l'humour de l'opérette, c'est l'époque...
Non, non, pas du tout, mais un film où les gens rient vraiment, vraiment rient sur cette situation cocasse, tout ça, et que c'est que dans le midi qu'on peut connaître ça, voilà.
Ça, c'est un pas fort. Ma femme, que c'est ma femme, elle a jamais réussi à me faire éplucher les légumes.
Qu'est-ce que tu as encore à râler ?
Qu'est-ce que j'ai à râler ? Toi, ni que je te retiens. Viens un peu au comité d'aide pour demi-heure. Ça fait deux jours que je suis là. Vous avez besoin de la gagner, cette grève ? Et vite ! Parce que moi, à force de plucher les patates, je vais finir par plus avoir le jour au bout, là.
Ça te changera guère, va.
Toi, tu peux parler. Si nous avons perdu dimanche contre Zé, c'est bien de ta faute.
De ma faute ?
Ouais, ouais,
de ma faute ? D'abord, tu n'avais pas à tirer.
À tirer ? Ça, c'est le Gary. Ça, c'est ma boule. Elle était là. Ça, c'est la boule de Zé. Elle était là. Qu'est-ce qu'il devait faire ?
Pardon. Elle était là.
Je te dis qu'elle était là. Je le sais bien, non ? Dis-moi que je suis un menteur maintenant.
Bon, ne vous affolez pas, là, mais il y a 12 camions de CRS qui viennent d'arriver au Capinel.
Voilà l'histoire incroyable de ce film, Rendez-vous des quais, qui a été interdit pendant 35 ans. Il faut dire que Paul Carpita lui-même pensait que son film avait été détruit, mais heureusement, le cinéaste Jean-Pierre Daniel, il y a un an environ, s'est mis en tête de redécouvrir ce film, de le rechercher, et il l'a trouvé dans les copies des films saisis, dans les archives du cinéma français à Bois d'Arcy. Et puis, la Cinémathèque, grâce à son soutien, grâce au soutien de la Cinémathèque et de Dominique Vallon, le directeur du CNC, le film a été restauré et le producteur Yves Rousset-Rouard a décidé de distribuer ce film en salle.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle au fin. Mais je ne sais pas où la chercher, la chercher. Il me faut la chercher, oh boy. La trouver, la trouver. Je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Oh, famille et Marseille, montez ses escondes. Oh, famille et Marseille, belle Haïti si est perdue. Remontant Canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier, ouais, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser. Chercher partout des collines à la mer, ça fait sacré beau. Des calanques à la nette, c'est une histoire de faux. Ça fait des kilomètres, je suis sur les genoux. Enfin, mise Marcia, monte siège escondida. Enfin, mise Marcia, baisse un qui s'est perdu.
Mademoiselle Marseille, moi je sais où elle est, dans la cour de l'école, moi je l'ai embrassée.
Allez, monsieur notre copain, allez, en voiture pour le chalonnier.
C'était un entretien avec Paul Carpita enregistré il y a 20 ans en novembre 1990, à voir le rendez-vous des quais de Paul Carpita ainsi que son dernier film Marché Rêve sorti en 2002 sont tous les deux disponibles en DVD et distribués par Dorian Film. Et à lire également une biographie Paul Carpita, cinéaste franc-tireur, publié par L'Échappée peu avant sa mort en avril 2009. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Aujourd'hui à la technique, Gilles Gaillard et Vincent Godard, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, c'est Miss Maf. Devant le nombre d'appels, je vous confirme qu'en ce moment, Maf offre bien une réduction pour la première cotisation santé égale à l'âge de l'assuré. À partir de 50 ans, moins 50 euros, 60 ans, 60 euros, etc. Et cela est valable pour les particuliers comme pour tous les professionnels. Parce que chez Maf, plus le temps passe, plus nous aimons nos clients. Voilà.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la Maf.
Offre valable jusqu'au 31 mai 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût selon opérateur.
Samedi soir, c'est 4, 5 ou 6 verres que vous avez bu. Vous ne savez plus trop ? Difficile de se rappeler.
Pour vous aider à faire le point, le site alcoolinfoservice.fr vous propose l'alcoomètre, un programme pour mesurer votre consommation d'alcool et ses risques éventuels. C'était un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé.
Dans quelques minutes, Frédéric Lodéon et son Carrefour de l'Odéon. Passez une excellente journée sur France Inter. Il est 16h. Les informations, Pierre-François de Courcelles.
Un vol sur trois aujourd'hui au départ des aéroports parisiens, mais combien dans les prochains jours alors que 85 000 Français sont toujours bloqués à l'étranger? Tous les regards sont tournés vers le volcan islandais qui continue à cracher d'importantes quantités de cendres. D'heure en heure, les prévisions s'affinent et c'est une bonne nouvelle qui se profile pour la France. Le nuage émis depuis hier devrait épargner le pays dans les prochaines 24 heures grâce à des vents favorables. Dans le même temps, ce vent dissipera le reste de particules qui ont traversé le pays ces derniers jours. Une nouvelle réunion doit démarrer à Matignon dans trois quarts d'heure pour faire le point sur l'évolution future du trafic aérien. On le sait, cette crise du transport aérien a déjà coûté très cher, mais une autre crise, la crise économique mondiale, aurait finalement coûté moins cher que prévu, selon le Fonds monétaire international. Moins cher que prévu, mais 2300 milliards de dollars tout de même. C'est 500 millions de moins que la précédente estimation fournie par le FMI. 200 salariés de PSA Peugeot Citroën ont manifesté leur colère aujourd'hui devant le siège du groupe automobile où se tenait un comité d'entreprise extraordinaire. Ce comité d'entreprise visait à confirmer la fermeture du site de Melun-Sénart en Seine-et-Marne. L'activité de ce site qui emploie actuellement 400 personnes sera transférée à Vesoul d'ici 2012. Il fête aujourd'hui ses 200 ans. Le juge d'instruction est menacé dans la réforme annoncée de la procédure pénale. Ce juge indépendant naissait il y a tout juste deux siècles, en 1810. Pour Marc Trévidic, président de l'Association française des magistrats instructeurs, le juge d'instruction paie son statut de dernier bastion de résistance. Le nouveau projet du gouvernement prévoit de confier dorénavant les enquêtes uniquement au parquet sous le contrôle d'un juge de l'enquête et des libertés. Amnesty International s'inquiète de possibles actes de torture commis en Irak. L'ONG demande aux autorités du pays d'ouvrir une enquête sur une prison secrète située à Bagdad, prison où seraient détenus des centaines de prisonniers sunnites. C'est le Los Angeles Times qui révèle cette affaire. Plusieurs de ces prisonniers auraient reçu des décharges électriques ou subi des simulacres d'étouffement. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki dit, lui, ne pas avoir eu connaissance de tels actes. La navette Discovery s'est finalement posée sans encombre il y a un peu plus d'une heure en Floride. Son retour a dû être reporté plusieurs fois en raison des conditions météo. Les 7 astronautes à son bord ont passé 15 jours dans l'espace pour ravitailler la station spatiale internationale. Et pour terminer, les amateurs de James Bond sur grand écran vont devoir prendre leur mal en patience. La production du nouvel opus de la saga, le 23e, est suspendue et ce de manière indéterminée. Conséquence de l'incertitude qui pèse sur l'avenir économique du distributeur de ces films, la Metro-Goldwyn-Mayer.
Service public, Olivia Jesbert.
Après Xynthia et en pleine polémique des démolitions annoncées en Vendée et en Charente, quelles leçons avons-nous tirées des inondations passées ? Nos systèmes d'alerte et de prévention des risques sont-ils suffisants ? On en parle demain dans Service public. Vos témoignages sur franceinter.com.
Service public du lundi au vendredi à 10h.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle du 13 au 17 juillet. 5 jours de live, plus de 120 concerts. M, Jacques Dutronc, Émilie Simon, Phoenix, Carmen Maria Vega, Tété, Indizara, Alain Souchon. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Renseignements 05 46 50 55 77 et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 16h, passé de 4 minutes tout de suite, c'est Carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon.
Bonjour Pierre-François. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans une petite demi-heure, je recevrai Patricia Petitbon, flamboyante cantatrice, soprano, et qui vient de publier un disque Rosso, donc des airs d'opéra baroque et italien de surcroît. C'est chez Deutsche Grammophon et France Inter est partenaire. Pour commencer, quelques nouveautés aux rééditions. Voici avec un personnage qui ressemble un petit peu à l'actuel Premier ministre russe par son sourire inexistant, on va dire, mais on sait que c'est un maître magnifique, c'est un joueur d'échecs aussi prodigieux, très grand pianiste qu'on aime beaucoup, mais là, bon, la photo est un peu rébarbative. Nikolaï Louganski nous propose la troisième sonate de Chopin, le quatrième scherzo, une fantaisie. Et puis, oh, ça aurait pu être terrible, finalement, Chopin voulait qu'on détruise la fantaisie impromptue qu'on va écouter. Heureusement que son ami, élève, Fontana, copiste, a refusé ce sacrifice.